5. Je n'avais pas envie d'attendre. Je ne voulais qu'une seule chose. Foutre le camp de Lilimar avec ma chienne régénérée, la conduire jusqu'au hangar et la regarder manger tout ce qu'elle pouvait avaler. Et j'étais prêt à parier que ce serait colossal. Je lui donnerais un sac entier d'origine si ça lui faisait plaisir et quelques lanières de viande séchée par-dessus le marché. Après quoi, on pourrait regarder les monarques regagner leur nid. Voilà ce que je voulais. Mais je m'obligeais à attendre pour laisser Anna le temps de se poser. Je comptais jusqu'à 500, de 10 en 10, puis de 5 en 5, et enfin de 2 en 2. Je ne savais pas si c'était suffisant pour permettre à cette créature infâme de passer en mode roupillon, mais je ne pouvais pas patienter plus longtemps. Je devais quitter le secteur au plus vite. Surtout, il fallait impérativement que je sois ressorti de cette ville avant le crépuscule, et pas uniquement à cause des soldats de la nuit. Certains des repères de M. Boditch avaient presque disparu. Et si je perdais cette piste, je serais dans de sales draps. « Viens, » dit Jaradar. « Mais surtout pas de bruit, Fifille. » Je tirais le tricycle derrière moi, au cas où Anna surgirait et nous attaquerait subitement. Le temps qu'elle l'écarte de son chemin, cela me donnerait peut-être le temps de dégainer et de tirer. Et puis, je pouvais compter sur Radar, qui avait retrouvé son poids de forme. Et je devinais que si Anna s'en prenait à ma chienne, elle y laisserait un gros morceau de viande. Spectacle réjouissant. En revanche, voir la géante briser le cou de ma chienne d'un revers de son énorme battoir le serait beaucoup moins. Je m'arrêtais à l'entrée du passage, puis me dirigeais vers la fontaine avec Radar à côté de moi. Il y avait des matchs qui m'avaient semblé interminables, notamment contre notre principal rival, Saint John. Mais ces 50 mètres à découvert entre la maison de Anna et le centre de la place furent assurément les plus longs de ma vie. Je m'attendais à chaque instant à entendre une version locale de « Fifaifofum » et le bruit sourd de ses pas qui faisait trembler le sol alors qu'elle se lançait à notre poursuite. Un oiseau cria, un corbeau peut-être, ou une buse, mais je n'entendis rien d'autre. On atteignit enfin la fontaine, et je m'y appuyais pour essuyer sur mon visage un mélange de sueur et de pluie. Radar leva les yeux vers moi. Fini les tremblements et les frissons. Fini également les quintes de toux. Elle me souriait. C'était l'aventure. Après avoir vérifié qu'il n'y avait pas de Anna dans les parages, je me remis en selle et pédalais en direction de l'élégant boulevard où les membres de l'élite empissarienne se retrouvaient sans doute jadis à l'heure du thé pour manger des petits sandwichs et échanger les derniers potins de la cour. Le soir, ils organisaient peut-être des barbecues ou des bals à la lumière des lampes dans de vastes jardins aujourd'hui envahis par les mauvaises herbes, les ronces et des fleurs dangereuses. J'avançais à un rythme soutenu. Mes radars me suivaient sans peine, à grandes enjambées, et sa langue se balançait joyeusement sur le côté de sa gueule. La pluie avait redoublé de violence, mais je ne m'en apercevais même pas. Je ne pensais qu'à une seule chose, faire le chemin en sens inverse et quitter cette ville. J'aurais le temps alors de penser à me sécher. Et si j'attrapais froid, nul doute que Claudia me bourrerait de soupe de poulet avant que je retourne chez Woody, puis chez Dora, puis à la maison. Mon père me passerait un sacré savon, mais quand il verrait Radar, il... Quoi donc ? Je m'occuperai de ça plus tard. Avant tout, il fallait quitter cette ville détestable qui n'était absolument pas déserte, ni inerte et silencieuse. 6. Cela aurait dû être facile. Suivre les repères de M. Boditch en sens inverse et prendre la direction opposée à celle indiquée par les flèches jusqu'à la porte principale. Mais lorsque j'atteignis l'endroit où on avait emprunté le grand boulevard, les initiales avaient disparu. J'étais certain qu'elles apparaissaient sur ce pavé devant un grand bâtiment coiffé d'une coupole en versale, mais je n'en voyais plus aucune trace. L'averse les avait-elle effacées? C'était peu probable, quand on pensait à toute la pluie qui les avait arrosées pendant des années, d'autant que celle-ci était encore relativement vive. Plus vraisemblablement, je m'étais trompé. Je continuais à pédaler sur le boulevard à la recherche de ces deux lettres A, B. Après avoir dépassé trois rues perpendiculaires sans les apercevoir, je fis demi-tour jusqu'à ce bâtiment qui ressemblait à une banque avec sa coupole. Oh, « Je suis sûr que c'était ici », dis-je, en montrant la rue tortueuse dans laquelle s'était renversé un pot de terre cuite contenant un arbuste mort. « Je me souviens de ça. Il faut croire que la pluie a effacé les repères, finalement. « Viens, radar !» Je pédalais lentement, à l'affût des initiales suivantes, habité par un sentiment désagréable, car elles formaient une chaîne, n'est-ce pas ? Un peu comme celle qui avait conduit de l'accident fatal de ma mère sur ce foutu pont au cabanon de Monsieur Bodich. Si un maillon avait cédé, il était fort probable que je sois perdu. « Tu seras encore en train d'errer dans ce trou à rats à la nuit tombée », avait dit Claudia. Un peu plus loin, dans cette rue étroite, on atteignit une ruelle bordée de boutiques anciennes et abandonnées. J'avais l'impression qu'on était passé par ici, mais là encore, aucune initiale. Je crus reconnaître sur un côté ce qui avait dû être une échoppe d'apothicaire, mais la maison à moitié écroulée, aux fenêtres pareilles à des regards vides, en face, ne me disait rien du tout. Je cherchais à apercevoir le palais, espérant m'orienter de cette façon, mais il était presque invisible à travers le rideau de pluie battante. « Radar !» dis-je en montrant le coin de la rue. « Tu sens quelque chose ?» Elle marcha dans la direction que j'indiquais et renifla le trottoir qui s'effritait, puis leva les yeux vers moi dans l'attente de nouvelles instructions. Je n'en avais aucune à lui donner et je ne pouvais rien lui reprocher. On avait effectué ce trajet sur le tricycle, et même si on l'avait fait à pied, l'averse aurait effacé toutes les odeurs. « Viens !» J'empruntais cette ruelle car je croyais me souvenir de la vieille pharmacie, mais aussi parce qu'il fallait bien aller quelque part. Le meilleur plan, me disais-je, consistait à garder le palais en ligne de mire pour essayer de retrouver la route des Galiens. Prendre l'artère principale pouvait s'avérer dangereux. Ce n'était pas pour rien que les repères de M. Bodich la contournaient, mais au moins, elle nous conduirait à l'extérieur. Et puis, c'était tout droit. Problème, on aurait dit que les rues insistaient pour nous éloigner du palais au lieu de nous en rapprocher. Même lorsque la pluie faiblit, ce qui me permit de voir les trois flèches, celles-ci paraissaient de plus en plus lointaines. Le palais se dressait sur notre gauche, et je trouvais un tas de rues qui partaient dans cette direction, mais elles s'achevaient en cul-de-sac, ou bien elles finissaient par repartir vers la droite. Les murmures s'étaient amplifiés. J'essayais de me dire que c'était le vent. En vain, il n'y avait pas de vent. Du coin de l'œil, je vis un étage supplémentaire poussé sur une maison de deux étages, mais quand je tournais la tête, il n'y en avait que deux. Une construction cubique donnait l'impression de se dilater vers moi. Une gargouille, une sorte de griffon, semblait nous suivre du regard. Si Radar voyait ou sentait ces phénomènes, cela la laissait indifférente apparemment. Peut-être savourait-elle sa vitalité retrouvée. Moi, en revanche, je me sentais oppressé. J'avais de plus en plus de mal à ne pas considérer Lilimar comme une entité vivante, semi-consciente, bien décidée à ne jamais nous laisser sortir. Devant nous, la rue s'achevait par un fossé abrupt rempli de gravats et d'eau stagnante. Encore une impasse. Suivant une impulsion, je m'engageais dans une ruelle si étroite que les roues arrière du tricycle arrachaient des copeaux couleur rouille aux murs de briques. Radar me précédait. Soudain, elle se figea et se mit à aboyer. Des aboiements puissants et sonores qui jaillissaient de poumons vigoureux. « Qu'y a-t-il ? » Elle se remit à aboyer, oreilles dressées, scrutant la ruelle sous la pluie. C'est alors que du coin de la rue perpendiculaire à la ruelle s'éleva une voix aiguë que je reconnus aussitôt.
« Salut, sauveur d'insectes ! T'es toujours un garçon irascible ou bien un petit garçon apeuré ? Pressé de rentrer chez sa maman, mais qui ne trouve pas son chemin ?»
Sarcasme suivi d'un chapelet de rire.
« J'ai effacé les marques avec de la soude. On va voir si tu arrives à ressortir du Lily avant que les soldats de la nuit sortent pour s'amuser. Pour moi, c'est un jeu d'enfant. Le petit gars que tu as devant toi connaît ses rues comme le fond de sa poche.
C'était Peterkin. Vous l'aviez reconnu. Mais mentalement, je voyais Christopher Paulet. Celui-ci avait une raison de se venger, au moins. Je lui avais brisé les poignets. Qu'avais-je fait à Peterkin, hormis l'empêcher de torturer un gigantesque criquet rouge? Je l'avais humilié. Voilà la réponse. Je ne voyais pas d'autre explication. Mais il ignorait une chose. La chienne à l'agonie qu'il avait vue sur la route du royaume n'était pas celle qui m'accompagnait désormais. Radar s'était tourné vers moi. J'indiquais le coin de la rue. « Attaque !» Pas besoin de répéter. Elle s'élança vers l'origine de cette voix grinçante, faisant jaillir des gerbes d'eau couleur de brique, et elle tourna au coin sans ralentir. Peterkin poussa un cri de surprise, auquel succédèrent une volée d'aboiements, du genre de ceux qui avaient flanqué la frousse à Andy Chen autrefois, et un hurlement de douleur.
« Qui va le regretter ?»
brailla Peterkin.
« Et ton sept du climat aussi !»
Je t'aurai, mon mignon, pensais-je en pédalant dans la ruelle. Hélas, les moyeux des roues arrière me ralentissaient en raclant les murs. Je t'aurai. Retiens-le, radar! Et comme ça, Peterkin pourrait nous aider à sortir de ce labyrinthe. Je saurais le convaincre comme j'avais convaincu Paulet. Mais au moment où j'atteignais le bout de la ruelle, radar réapparut au coin. Les chiens peuvent prendre un air honteux. Quiconque en a eu un dans sa vie le sait. Et c'était exactement l'impression qu'elle donnait à cet instant. Peterkin avait réussi à s'échapper, non sans y laisser des plumes. Radar tenait dans sa gueule un large morceau de tissu vert éclatant qui pouvait provenir uniquement du pantalon du nain. Mieux encore, j'apercevais deux taches de sang. Arrivé au bout de la ruelle, je regardais à droite et le vis suspendu à une corniche au premier étage d'une maison de pierre, à 20 ou 30 mètres de là. Il ressemblait à une mouche humaine. J'avisais la descente de gouttière métallique qu'il avait escaladée pour échapper aux crocs de radar, mais pas assez vite. Sous mes yeux, il grimpa sur un rebord de fenêtre où il s'accroupit. J'espérais que le rebord, qui paraissait effrité, cède sous son poids. Hélas, cela ne se produisit pas. Peut-être que s'il avait eu une taille normale.
Tu me le paieras !
S'égosilla-t-il en montrant son poing.
« Les soldats de la nuit vont commencer par tuer ton kleps. Mais j'espère qu'ils te tueront pas. J'ai bien envie de voir Red Molly t'arracher les tripes pendant le 1 contre 1 !»
Je dégainai le revolver, mais avant que je puisse lui tirer dessus, à cette distance, j'aurais certainement manqué ma cible. Il poussa un de ses cris répugnants et bascula à la renverse par une fenêtre en nouant ses petits bras autour de ses petits genoux plaqués contre sa petite poitrine. Il disparut. « C'était excitant, hein » dis-je à Radar. « Si on fichait le camp d'ici maintenant !» Elle répondit par un aboiement. « Lâche ce morceau de pantalon avant qu'il t'empoisonne !» Elle obéit et on poursuivit notre route. En passant devant la fenêtre par laquelle Peterkin avait fichu le camp, j'espérais le voir réapparaître comme une cible sur un stand de tir à la foire. Espoir déçu, là encore. Sans doute que les sales lâches de son espèce ne vous laissent pas une deuxième chance. Mais parfois, si le destin vous est favorable, vous en avez une troisième. On pouvait toujours espérer.